Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Le conflit en Syrie a été le grand oublié de l'année 2022 avec la guerre en Ukraine. La tension médiatique s'est détournée de la Syrie et d'un conflit qui a fait les gros titres plusieurs années durant. La guerre est pourtant toujours en cours, ponctuée de raids menés par trois pays essentiellement, Israël, la Turquie et la Russie. La tension militaire ne faiblit pas dans le nord de la Syrie. Le 20 novembre dernier, Ankara lançait l'opération baptisée Griffe épée, bombardant des positions kurdes du PKK et des unités de protection du peuple YPG. Ankara accuse ses forces d'être à l'origine de l'attentat à Istanbul le 13 novembre dernier, faisant 6 morts et 80 blessés. Les incursions de ces trois dernières années ont déjà consolidé l'empreinte de la Turquie dans la région, l'objectif d'Ankara étant de chasser les Kurdes de la frontière. Pendant ce temps, Bachar al-Assad, le président syrien, poursuit sa politique de normalisation du régime, marquée par une reprise de relations diplomatiques avec un nombre croissant de pays de la région. Regard avec nos invités, Ala Kodmani, journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération et auteur de « Seul dans Raqqa » aux éditions Équateur, paru en 2017. Bonjour.
Bonjour.
Ziad Majed, politiste, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, auteur de nombreux ouvrages dont « La Syrie, la révolution orpheline, nos actes sud » en 2014. Bonjour.
Bonjour.
Et Joël Hubrecht, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, responsable du programme Justice pénale internationale et transitionnelle à l'Institut des études et de la recherche sur le droit à la justice. Bonjour.
Bonjour.
Ala Kodmani, Ziad Majed et Joël Hubrecht qui ont tous trois contribué, Joël Hubrecht en tant que co-directeur, à l'ouvrage collectif paru cet automne intitulé « Syrie, le pays brûlé 2011-2021, le Livre noir des Assad aux éditions du Seuil, un ouvrage saisissant qui recense les crimes du régime les plus significatifs d'une décennie de guerre et rassemble un très grand nombre de témoignages d'acteurs et de victimes. Un appel à la justice demandé par des millions de Syriens qui continuent de résister malgré la violence inouïe à laquelle ils font face. Et je démarre avec ce livre et je me tourne vers vous, Joël Hubrecht. Pour vous, cette guerre syrienne est une guerre qui marque le basculement du monde. Et vous y voyez des similitudes avec la guerre d'Espagne. La Syrie, dites-vous, s'est offerte comme un laboratoire pour essayer de nouvelles armes, pour expérimenter de nouvelles stratégies meurtrières, comme les bombardements directs des hôpitaux et des écoles, et également pour tester le seuil de tolérance des Occidentaux, qui malheureusement s'est avéré très élevé, Joël Hubrecht.
Oui, plus précisément, c'est un ancien ambassadeur de France à Damas qui fait le parallèle entre la guerre en Syrie et la guerre d'Espagne en disant que dès 2012, il a eu le sentiment que le conflit qui prenait son essor en Syrie était notre guerre d'Espagne. Plus exactement, la guerre d'Espagne d'une génération de dirigeants des démocraties occidentales, celle d'Obama, de Merkel, de Cameron et de Hollande. Et effectivement, le parallèle, c'est que comme en Espagne en 1936, c'était la guerre que les démocraties ne devaient pas perdre, ne devaient pas manquer, faute de quoi le front allait s'élargir au profit des ennemis de la démocratie et des dictatures, ce qui malheureusement se déroule aujourd'hui de manière flagrante en Ukraine, car c'est bien sur le front syrien que Vladimir Poutine s'est fait les dents, mais aussi que Erdogan a lui aussi gagné une stature et a durci son régime. Et en face, les démocraties, comme en 1936, se sont avérées impuissantes. Alors, elles n'ont pas rien fait. Elles ont monté une coalition. Mais cette coalition, évidemment, elle devait le faire. Elle devait s'attaquer à la menace djihadiste représentée notamment par Daesh. Mais elle s'est concentrée uniquement sur cette guerre contre la terreur en oubliant qu'elle s'articulait avec un État terroriste, le régime de Damas. Aujourd'hui, les Européens reconnaissent que la Russie, le régime de Poutine est également un État terroriste, mais donc en ayant cette vision réduite de ce qui se passait là, on a finalement laissé non seulement la catastrophe aller jusqu'au bout d'une violence absolument inouïe, mais on a accepté que ce soit une paix installée par la Russie, par la Turquie, par l'Iran, qui soit aujourd'hui en place dans la région.
Une paix fragile, on le dira aussi, et avec une situation qui, somme toute, est très volatile. Alain Kodmany, commentaire sur ce que vient de dire Joël Ubrecht. Par rapport à cette situation avec cette guerre contre la terreur qui a été menée contre Daesh, alors que la terreur d'État du régime des Assad a été reléguée à l'arrière-plan, les Syriens se sont sentis très trahis d'une part, abandonnés d'autre part, Alain Kodmany.
Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les Syriens sont complètement dépossédés, ont été complètement dépossédés, et de leur sort, et de leur pays, et de leur avenir, évidemment. Mm. Dépossédés d'abord par un régime qui, aujourd'hui, est encore là, et continue à un régime très corrompu, qui, pour le peu de ressources qui restent dans le pays, accapare tout, et continue d'être répressif, de tenir les gens dans un régime de terreur, et puis dépossédés du reste de leur pays, puisque ce sont essentiellement 3 puissances étrangères, voire 4, qui sont aux commandes, en quelque sorte, que ce soit la Russie, bien entendu, l'Iran, très important, qui est toujours sur le terrain, et qui manipule un petit peu, qui est complètement allié à ce régime, et évidemment la Turquie, qui, elle, maintenant, a son propre agenda, c'est-à-dire sa cause contre les Kurdes, ces Kurdes turcs, mais aussi qui s'étend jusqu'à aux Kurdes syriens. Donc voilà, les Syriens, en fait, n'ont plus voix au chapitre, quelque part. Ils sont presque inexistants et surtout dépossédés. Ils n'ont plus aucune manière d'influer sur les événements.
Ziad Majed.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le pays aujourd'hui, la Syrie, est un pays fragmenté, occupé par plusieurs puissances. Ni le régime est maître de son sort, puisqu'il dépend du soutien iranien et russe, ni les oppositions, qui sont très différentes, n'ont leur mot à dire, puisque c'est la Turquie qui gère maintenant ce champ politique des oppositions. Et puis la population syrienne, on parle de 6 millions à 7 millions de réfugiés à l'extérieur du pays, de 6 millions à 7 millions de déplacés internes. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 100 000 Syriens qui ont disparu, qui sont souvent dans les geôles du régime. On connaît dans ces geôles la terreur, la torture, les viols, les meurtres, les exécutions. Et par cette institution carcérale, le régime essaye de paralyser la société, de la tenir dans l'attente du sort des disparus. Souvent, même quand on annonce le décès sous la torture ou sous d'autres formes de barbarie, on ne rend pas les corps, donc on empêche les familles de faire leur deuil et de tourner des pages. Et donc le régime utilise toutes sortes de violences. Là où il continue à contrôler le terrain protégé par les Russes et les Iraniens, il essaye en même temps d'écraser la société, de lui dire qu'il n'y a pas d'avenir, sauf si on se soumet de nouveau à sa volonté et à sa dictature. Tandis que dans les zones qu'il ne contrôle pas, on voit encore des bombardements de temps en temps du régime et des Russes. Et puis maintenant, il y a une possibilité d'une opération turque dans le nord. Et comme vous avez évoqué au début, il y a les Israéliens aussi qui mènent des raids aériens, mais cette fois qui visent spécifiquement soit des positions iraniennes, soit des positions du Hezbollah libanais, qui est présent également en Syrie pour soutenir le régime.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Alors, on va parler de la situation dans le nord de la Syrie avec ce projet turc d'aller plus loin dans ce qu'il a entrepris au mois de novembre. Joël Ubrecht, je voudrais qu'on revienne sur la question de la situation et la terreur qui continue de prévaloir aujourd'hui en Syrie. Vous le dites dans l'ouvrage donc Syrie, le pays brûlé, c'est le conflit qui a été le plus filmé de l'intérieur, avec une abondance d'images absolument incroyables, ce qui permet de constituer une mémoire immense. La tâche de la justice, elle est immense aussi. Où est-ce que l'on en est des plaintes qui ont été déposées, des processus de la justice en cours, Joël Ubrecht?
Oui, il y a une situation qui est absolument dramatique du fait que les massacres commis sous le régime de Hafez, sur lesquels on revient aussi dans cet ouvrage, dans les années 80, manquaient de documentation. Alors que les crimes qui ont été commis durant cette décennie, effectivement, ont été documentés. De manière multiple, à la fois par des associations syriennes, hein, comme le centre de documentation sur les violences en Syrie, et bien d'autres aussi, des ONG internationales comme Amnesty, on se rappelle son rapport sur la prison de Sednaya, Human Rights Watch, la FIDH, etc., mais également des agences internationales. Dès 2011, une commission internationale d'enquête de l'ONU a été mise en place, qui a rendu près d'une trentaine de rapports. Et donc, aussi beaucoup de documents, non seulement des témoignages, mais des documents filmés. On a donc une documentation très importante. Aujourd'hui, réunie en grande partie à Genève, dans un mécanisme qui s'appelle le mécanisme international et impartial sur les crimes commis en Syrie, hein, qui a réuni un ensemble de ces documents. Et en termes de procès, par contre, alors que des plaintes ont été déposées devant la justice depuis des années déjà. En France, on a une quarantaine de dossiers qui sont ouverts pour la Syrie auprès du pôle spécialisé sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité en France. Donc malgré cela, on a à la fois eu un blocage de la saisine de la Cour pénale internationale qui aurait pu être saisi par le Conseil de sécurité s'il n'y avait pas eu le veto russe. Et sur ce point-là, on voit déjà justement que la Syrie, encore une fois, préfigure une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui par rapport à la Russie et par rapport au délitement des organisations internationales et de l'ONU, qui est absolument dramatique. Mais d'autres démarches ont pu être faites auprès notamment des juridictions étrangères. Il y a une quinzaine de pays, notamment, devant lesquels des dossiers ont été ouvert. Il y a à peu près 150 enquêtes pour lesquelles ce mécanisme de Genève, à Genève dont j'ai parlé soutient le travail. Donc on a des enquêtes qui sont là, mais en termes de procès, on a finalement aujourd'hui seulement les deux condamnations rendues en Allemagne à Koblenz, dont une qui a une véritable portée, qui est la condamnation à perpétuité du chef du service d'enquête de la branche de 251, Anwar Raslan, a été condamné à un subalterne de rang bien inférieur. Et puis un autre procès à Francfort aujourd'hui est en cours. Mais on voit bien que ce soit par rapport à la personne qui a pu être condamnée, que ce soit par rapport à l'immensité des crimes, évidemment, on est très loin de ce qu'on pouvait même espérer, d'ailleurs, en termes de procès en compétence universelle, qui, de toute façon, on le savait, serait insatisfaisant, ne permettrait pas de toucher les principaux responsables comme Bachar el-Assad, mais au moins permettrait d'avancer un peu plus, et on est encore très loin. Mais cela dit, dans le livre noir, on tient compte des acquis, et évidemment, il faut avancer le plus possible sur cette voie, et on peut encore avancer. Espérons qu'un dossier sur les bombardements chimiques. L'année prochaine, on en sera à 10 ans de ce bombardement sur la Ghouta. Il n'y a encore eu aucun acte d'accusation qui a été ouvert. C'est absolument dramatique de ce point de vue-là.
Donc, les choses avancent très doucement, très lentement à la Khomeini, Joël Lubrecht vient le dire. Est-ce qu'on peut imaginer voir un jour le procès de Bachar el-Assad et de la dictature syrienne?
Bien sûr, c'est tout ce que j'espère depuis longtemps. Mais bon, il faut savoir aussi que la justice internationale, la temporalité, n'a rien à voir avec la réalité. Quand on regarde maintenant que le procès des génocidaires rwandais vient à peine de s'achever...
1994.
Donc bon, la justice internationale, c'est très important. Il faut, oui, on voudrait voir un jour Bachar el-Assad à La Haye ou devant un tribunal... ou condamné, mais bon, je crois que ce pari là-dessus, désolé de le dire, mais c'est une façon un peu pour les démocraties de se racheter. En disant la justice internationale, on va poursuivre, on essaye de faire des choses. Oui, bien sûr, c'est important. Mais face à l'urgence, rien n'a été fait. Rien n'a été fait ces dernières années, et rien n'est encore fait. Aucune initiative politique n'est faite pour résoudre le problème syrien aujourd'hui, de la part de personne.
Ziad Majed.
Oui, moi, il me semble que tant que le Conseil de sécurité des Nations Unies gère cette question de la justice internationale par rapport aux pays qui n'ont pas adhéré à la Cour pénale ou au traité de Rome, on va toujours être prise en otage quelque part. Il faut rappeler, par exemple, que les États-Unis d'Amérique ont utilisé le veto 53 fois pour protéger des violations israéliennes du droit international par rapport à l'occupation, que la Russie l'a utilisé maintenant 13 fois pour protéger le régime syrien. Donc, on est devenu dans une configuration où le droit de veto permet à des puissances internationales d'imposer la protection de leurs alliés et l'impunité ainsi règne. Le peuple syrien a été victime non seulement à partir de 2011, mais comme il a été dit, tout au long des années 80, sous Hafez al-Assad, la terrible prison de Palmyre, puis les massacres de la ville de Hama. Et les Syriens ont pensé que peut-être parce que cela s'est déroulé à huis clos et que maintenant avec les réseaux sociaux, les médias, la fin de la possibilité de censurer la couverture de ce qui se passe, le monde allait bouger et on n'allait pas laisser faire le régime et ses alliés russes et iraniens massacrer la population. Sauf que cela a été fait et le régime avait compris dès le début qu'il pouvait utiliser différentes stratégies de violence, le bombardement, puis la torture, puis l'usage des armes chimiques, puis de nouveau on met de côté les armes chimiques et on revient aux barils explosifs et aux bombardements, puis on utilise de nouveau l'arme chimique. Et à chaque fois, il a testé les lignes rouges, la fameuse ligne rouge d'Obama également, et à chaque fois, il n'y a pas eu de réaction à la hauteur des crimes qu'il commettait. Donc c'est dans un sens aussi un permis de tuer quand on peut commettre un crime et échapper à toute conséquence. Et en même temps, pour le peuple syrien, c'était la preuve qu'il y a un abandon, ce qui va pousser les gens à partir. Et à mon sens aussi, c'est une des raisons pour lesquelles le nihilisme a progressé sur le terrain. Et quand je parle de nihilisme, j'évoque certainement Daesh ou autres groupes qui ont profité de tout cela, qui ont eu des arguments à avancer dans le sens où nous sommes abandonnés parce que nous sommes musulmans. Voilà, c'est tout le monde qui est contre nous. Ils ont cherché à recruter ainsi en utilisant la victimisation. Et donc, le peuple syrien s'est trouvé finalement entre deux barbaries. La barbarie du régime, qui est la plus criminelle statistiquement parlant, et la barbarie de Daesh et des autres groupes qui ressemblent à Daesh, qui a également tué. Et puis pour le régime, c'était un cadeau. Il pouvait tout de suite évoquer ce choix, ce malheureux choix qui a été repris par certains occidentaux et par beaucoup d'États, soit le régime, soit les djihadistes. Mmh. Et finalement, on a préféré un régime, même s'il est 10 fois plus meurtrier statistiquement encore que Daesh, on l'a préféré à Daesh et la coalition internationale s'est contentée de bombarder les positions des djihadistes tout en laissant le premier terroriste et ses alliés, qui est Bachar al-Assad, le laissant tranquille. Donc, tout cela a contribué à cette situation-là et c'est aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, l'impunité qui règne, malgré tous les excellents efforts et nécessaires efforts que Joël a évoqués dans plusieurs pays européens j'espère bientôt dans d'autres lieux et d'autres pays.
Et alors, en guise de conclusion de cette première partie d'émission, Joël Lubrecht, vous le dites, la Syrie a engendré un nouveau terrorisme qui ne cesse de se recomposer et qui risque d'empoisonner les démocraties pour longtemps.
Oui, pour aussi terminer peut-être sur l'importance, malgré tout, de la demande de justice qui reste un fil rouge qui traverse la démarche de ce livre. On a, y compris en France, potentiellement des affaires importantes, que ce soit celle du bombardement du centre de presse de Homs, dans laquelle ont été tués un photographe français, Rémi Oschlik. Edith Bouvier, journaliste, a survécu à ce bombardement. Une journaliste américaine est aussi morte, et qui traduit ce ciblage volontaire de la part du régime pour s'en prendre à ceux qui cherchaient à informer, à s'exprimer librement. Et l'attaque des journalistes, comme l'attaque des hôpitaux, est absolument caractéristique du type de guerre et de répression qui a été conduite. Et puis, on a aussi l'affaire d'Islam Alouche, le porte-parole de Jaïch al-Islam, potentiellement en France, qui est aussi très important parce que ce groupe djihadiste, donc qui n'est pas Daesh, mais qui a enlevé Samira al-Khalil, Razan Zetouné et d'autres activistes, traduit justement ce que Ziad disait, c'est-à-dire cette prise en étau de militants qui s'opposaient au régime, mais qui ont été kidnappés, dans lesquels d'ailleurs les femmes jouaient un rôle très important, ce qui est aussi notable, et qui ont été kidnappés par ces alliés objectifs, finalement, que sont les groupes djihadistes.
Joël Lubrecht, on vous retrouve après le journal avec Ziad Majed et Ala Kodmani. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Syrie, nous retrouvons nos invités Alaa Khodmani, journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération, Ziad Majed, politiste, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris, et Joël Ubrecht, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, responsable du programme Justice pénale internationale et transitionnelle à l'Institut des études et de la recherche sur le droit à la justice, Alaa Khodmani et Ziad Majed, ainsi que Joël Ubrecht, qui ont tous trois contribué. Joël Ubrecht en tant que co-directeur à l'ouvrage collectif paru cet automne, Syrie, le pays brûlé, 2011-2021, le livre noir des Assad aux éditions du Seuil. Je le disais en introduction de l'émission, le 20 novembre dernier, Ankara lançait l'opération baptisée Griffe épée, bombardant des positions kurdes du PKK et des unités de protection du peuple YPG. Ankara qui accuse ses forces d'être à l'origine de l'attentat à Istanbul le 13 novembre dernier, faisant 6 morts et 80 blessés. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces raids turcs en Syrie? Le président Erdogan fait peser la menace d'une offensive terrestre. Est-ce que il y a, Ziad Majed, un rapprochement entre la Turquie et le président syrien Bachar el-Assad?
Il y a eu un moment où les autorités turques ont changé un peu de logiciel ou de discours politique par rapport au régime Assad, sans pour autant aller vers une normalisation. Et je pense que c'était tactique comme approche, ce n'était pas un changement stratégique de la part de la Turquie, qui pour le moment maintient les mêmes priorités, c'est-à-dire contrôler le nord syrien, pouvoir imposer là-bas un certain ordre sous l'autorité turque, tout en restant à la fois allié et dans un état de rivalité avec la Russie et l'Iran. Les trois forces ont une présence directe sur le terrain, avec les Américains également, et le processus d'Astana qui réunit Moscou, Ankara et Téhéran prétend qu'il veut trouver une solution politique au conflit, tout en essayant de coordonner un peu les positions. Mais pour la Turquie, la présence militaire des Kurdes au niveau de la frontière et dans certaines régions protégées par les Américains pose un grand problème. À la fois, il y a des chefs des milices kurdes en Syrie, qui sont des Kurdes de la Turquie, que la Turquie considère comme terroristes. Du côté kurde, il y a toute la cause kurde historique par rapport à leur droit à l'autodétermination, par rapport à l'oppression que les Kurdes ont subie dans les quatre pays où ils sont présents, Turquie, Syrie, Irak et Iran. Donc c'est un enjeu majeur pour la Turquie. Et Erdogan, aujourd'hui, il sait très bien qu'il peut profiter de la situation régionale comme internationale pour s'imposer davantage. Les Américains ont besoin de lui. Les Russes ont besoin qu'il reste en contact et qu'il joue un rôle au niveau de l'Ukraine comme au niveau de la Syrie. Et puis avec les Iraniens, je pense qu'il est d'accord maintenant par rapport à la question kurde, puisque les Iraniens aussi attaquent les Kurdes en Irak. Et donc il essaie de profiter de ce moment. Il a un contexte électoral en Turquie même, ce qui fait qu'il essaye de menacer, de peut-être d'opérer dans certaines localités en Syrie même pour élargir la zone de sécurité qu'il contrôle et pour permettre à ses alliés syriens de s'étendre aussi sur le territoire. Donc, on peut assister bientôt à une opération militaire. Je ne pense pas qu'elle sera aussi grande comme l'évoquent les Turcs aujourd'hui, mais peut-être cibler quelques localités symboliques, élargir la zone de contrôle et pousser les Américains et les Russes à accepter cela et à juste reconnaître le nouveau contrôle territorial turc.
Alors on a vu les forces kurdes demander à la Russie de faire pression sur la Turquie pour la dissuader de cette opération. Quels sont, je me tourne vers vous Alaa Khodmani, quels sont les risques d'une telle attaque et quelles conséquences?
Bon, il faudrait dire que c'est une attaque ça fait plus de 6 mois que Erdogan a annoncé cette attaque, a ciblé les 3 localités qu'il veut attaquer et qu'il attend et qu'il joue, parce qu'il joue de façon assez équilibriste et réussie d'ailleurs depuis le début de la guerre d'Ukraine avec ses alliances et ses relations. Donc, c'est une opération, je crois, essentiellement électoraliste.
Avec donc le scrutin présidentiel en 2023.
L'année prochaine, il y a des élections à la fois législatives et surtout présidentielles. Et donc, il attendait ce moment, qui n'est toujours pas venu d'ailleurs. Ça a commencé par des bombardements aériens, on a baptisé l'opération. Ce qu'il faut peut-être aussi dire. C'est que les cibles sont en effet limitées et peut-être justifiables. Dans ce sens que les trois localités visées par l'opération turque, je me fais l'avocat du diable, ce sont des localités qui ont été occupées par les forces kurdes du PYD, qui en ont chassé Daesh. Mais ce sont des localités qui n'ont jamais été kurdes. Et donc là, dans un plan turc, et c'est là que l'opération de politique intérieure est importante, de reloger des Syriens arabes, de les ramener chez eux en fait, parce que dans ces localités, les habitants arabes ont été un peu chassés par les forces kurdes. J'ai vu ça à l'époque, notamment dans une ville qui s'appelle Tel Rifat, qui est au nord d'Alep, où les habitants sont devenus des réfugiés parce que les forces kurdes ont avancé. Et donc bon, c'est une opération qui va être limitée, qui sera acceptée localement, notamment par les populations, et qui finalement, comme auparavant, que ce soit les Russes et les Américains, contre quelques promesses et engagements de ne pas trop aller trop loin et de ne pas élargir l'opération, je pense qu'il va le faire. Erdogan a déjà montré plusieurs fois qu'il faisait ce qu'il disait, quoi.
Joël Lubrecht.
Oui, sur ce système d'alliance et de rivalité, on voit que Damas apporte un soutien sans réserve à Moscou. Il fait partie des quatre pays qui ont voté contre la résolution de l'ONU du 2 mars 2022 condamnant l'invasion russe en Ukraine. Mais la relation, elle est complètement asymétrique, évidemment. Damas a plus besoin de Poutine que Poutine de Bachar, même s'il y a aujourd'hui des miliciens syriens qui vont aussi combattre sur le front ukrainien. Poutine n'a pas hésité d'ailleurs à l'occasion à humilier Bachar el-Assad. Et lui-même donc joue de cette rivalité avec son autre parrain, l'Iran. Et on n'a pas donc ce bloc unifié. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte parce qu'on a parfois tendance à penser que les démocraties sont par nature faibles et que les États autoritaires, eux, n'hésitent pas à faire valoir la force et de ce fait-là sont toujours en position dominante. Alors que ce qu'on voit, en fait, c'est que ces régimes autoritaires sont également en crise, hein, que ce soit aujourd'hui, évidemment, en Chine ou en Iran. Et donc, et les démocraties aussi sont en crise, mais ce n'est rassurant qu'à moitié, d'une certaine manière, parce qu'on est dans une sorte de période de surchauffe aussi. C'est pour dire qu'on est véritablement à un moment de rivalité cruciale entre des modèles politiques. Et on a dit que la décennie de la guerre en Syrie avait représenté l'équivalent de la guerre d'Espagne pour les démocraties. Voilà, il ne faut pas manquer et saisir bien quelle est la nature des enjeux aujourd'hui de ce qui se joue non seulement en Ukraine et en Europe, ce qu'on voit aujourd'hui directement, mais qui continue à se jouer sur le front syrien. Et c'est là où il y a quelque chose de dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consent bien à dire que oui, peut-être qu'on a manqué quelque chose en Syrie et voilà, maintenant c'est en Ukraine. Mais non, les fronts s'articulent. Et aujourd'hui, l'invisibilité de ce qui se passe dans la région syrienne est absolument dramatique aussi pour aussi continuer la lutte en Europe et en Ukraine.
Alors, plusieurs choses à ce stade de cette émission sur la Syrie. Ziad Majed, quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine sur la place de la Russie en Syrie et quelques mots aussi sur les États-Unis qui protègent les Kurdes qui ont très largement œuvré à la lutte contre Daesh. Quelle est finalement aujourd'hui l'importance de la Syrie pour les États-Unis ou pour Joe Biden ? Ziad Majed.
Alors, s'agissant des conséquences du conflit en Ukraine sur la Syrie, il y a évidemment des conséquences à la fois politiques, géostratégiques et militaires. L'armée russe en Syrie, disons, s'est redéployée notamment du côté du littoral syrien et autour de ses bases. Le sud syrien, par exemple, a connu quelques changements où les Russes étaient présents. Maintenant, c'est davantage les Iraniens, ce qui explique en partie pourquoi les Israéliens bombardent plus dans le sud. Moscou jouait l'équilibriste entre ses deux alliés, Téhéran et Tel Aviv. Maintenant, ils sont moins influents à ce niveau. Et donc, les Iraniens, à la fois, essayent d'éviter les frappes israéliennes, mais en même temps, profiter du recul russe. Et les Israéliens, donc, maintiennent leur même position et leur même politique. La Russie se sent isolé sur le plan international. À un moment donné, en Syrie, on a entendu des voix et on a, même quand on n'entendait pas ces voix-là, le silence révélé comme une volonté de demander à Moscou de régler le problème syrien. S'ils arrivent à le faire, on ferme les yeux, malgré tous les crimes que l'aviation russe a commis, malgré les destructions des hôpitaux et malgré l'usage, selon le ministre russe de la Défense, de 320 armes différentes en Syrie, bombardant les populations, ce qui a permis après à les utiliser aussi en Ukraine. Et je pense que la Syrie était un laboratoire russe politiquement et militairement avant de passer à l'offensive en Ukraine. Mais on a, dans un sens, délégué à Moscou cette mission de finir avec la question syrienne, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été une réussite. La preuve, ce qu'on vit aujourd'hui et tous les scénarios que nous avons. Les Américains, de leur côté, il y a eu des fluctuations, il y a eu des changements d'attitude. Obama s'est concentré sur la guerre contre Daesh. Trump a continué à peu près avec la même politique, tout en se désengageant politiquement de la question syrienne. Et puis Biden était à un moment où on a évoqué un possible retrait de la Syrie qui poursuivait la politique de Trump, notamment après le retrait de l'Afghanistan. Finalement, non, ils ont décidé de rester en essayant de préserver un statu quo, un œil sur la frontière irako-syrienne pour ne pas permettre aux Iraniens de l'utiliser d'une manière totalement libre. Et en même temps, il y a la zone pétrolière et de gaz là-bas. Puis il y a la protection des Kurdes qui ont été sur le sol leurs alliés dans la lutte contre Daesh. Maintenant, les Américains, je pense qu'ils veulent un statu quo. Ils veulent préserver cette configuration en espérant qu'il n'y a pas d'escalade de part et d'autre et en se focalisant sur la guerre en Ukraine. Peut-être que certains évoquent la Syrie maintenant plus qu'ils l'évoquaient avant, en réalisant qu'en laissant faire la Russie à Alep et dans la Ghouta et dans la région de Idlib et à Homs et ailleurs, on paye le prix aujourd'hui. C'est trop tard pour les Syriens, mais on peut toujours penser à la nécessité, comme Hala Koudmani l'évoquait, de trouver une solution politique à ce conflit syrien. Et la question du statu quo, elle peut être temporaire, mais elle ne peut pas durer. C'est un pays en ruine, c'est un pays fragmenté, c'est un pays occupé. Et avec ce genre de situation, il y aura toujours de la violence, l'éruption d'un phénomène par-ci, par-là. Donc il faut une solution politique. Et cette solution politique ne peut pas avoir lieu tant que Assad est au pouvoir. Le livre évoque les années de son père, 1970-2000, donc 30 ans de Hafez al-Assad et maintenant bientôt 22 ans, 23 ans de Bachar al-Assad, 52 ans de la vie de la Syrie, de ce pays qui a eu son indépendance en 1943 et le départ des troupes françaises en 1946. Sur la durée, il y a plus de vie sous Assad, père et fils, que dans des phases précédentes. Donc il faut finir avec cela. Et il faut finir avec l'impunité qui a longtemps régné et protégé les Assad.
À la Côte Magie, j'ai deux questions sur les Syriens, à proprement parler. Ce sera intéressant de connaître un peu la situation des Syriens aujourd'hui. On dit que 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté en Syrie. Mais d'abord, j'ai cette question. Quel est le regard des Syriens aujourd'hui sur la guerre en Ukraine par rapport à ce qu'ils ont vécu ? Ces dernières années.
C'était très émouvant de voir, au tout début de la guerre en Ukraine, quand vraiment l'armée russe attaquait, expressions de solidarité totale, notamment dans le nord syrien, dans la zone de Idlib, où il reste hors de contrôle du régime et où les opposants sont encore entiers. Les expressions de solidarité avec les Ukrainiens étaient tout à fait bouleversantes. Il est certain que dès le début, c'était ça. C'était un côté, on vous l'avait bien dit, Poutine, on vous l'avait laissé faire chez nous, et voilà où il en est. Par la suite, avec la résistance ukrainienne, avec l'aide considérable que l'Ukraine est en train de recevoir de la part des États-Unis, de la part des Européens, il y a comme une nouvelle réaction. Ah oui, évidemment. Eux, c'est des Européens, nous, on n'est que des Arabes musulmans, la Syrie, c'est loin, on aime bien, on nous aimait bien, mais pas autant que les Ukrainiens, que quand ça se passe en Europe. Et c'est vrai que, donc, il y a eu ce décalage, pour des raisons évidemment compréhensibles de la part des Occidentaux, mais il y a en effet cette réaction qu'on retrouve beaucoup chez les Syriens.
Joël Ubrecht.
Ce décalage entre un élan de solidarité très fort envers les réfugiés ukrainiens, très fort sur le plan de la réponse judiciaire. La Cour pénale internationale a des enquêteurs aujourd'hui en Ukraine. La Cour internationale de justice a été saisie. Il y a un projet de tribunal spécial dont on est en train de discuter. Hein. Et évidemment aussi le soutien militaire apporté à Kiev. Les révolutionnaires syriens auraient eu le tiers du quart de ce qui aujourd'hui apporté en termes d'aide militaire aux Ukrainiens. Ils auraient à un moment donné renversé Bachar al-Assad qui n'a vraiment tenu et ne doit sa survie qu'à l'intervention militaire russe extérieure. Mais ce n'est pas qu'une question de solidarité entre Européens, c'est une question de la révolution syrienne. Elle mettait face à face une population et un régime, alors qu'en Ukraine, on a l'État russe qui attaque l'État ukrainien. Et on sait faire une solidarité diplomatique, militaire vis-à-vis d'un État, on ne sait pas le faire vis-à-vis d'une population. Et c'est un enjeu considérable sur lequel il faut s'interroger, parce que de la même manière, on a tendance à ne pas tenir compte non plus de la nature spécifique des États et à vouloir à tout prix ne reconnaître voilà, qui est le successeur légitime de Bachar al-Assad, comme s'il pouvait y avoir un plus mauvais successeur à Bachar al-Assad. Il y a cette reconnaissance de la puissance étatique, il y a cette tentation d'aller vers des statu quo, vers des paix bancales et fragiles, hier en Syrie, peut-être demain en Ukraine, qui est dramatique parce qu'on ne comprend pas la nature criminelle des régimes. Et la Syrie, ce n'est pas qu'une occasion manquée. La Syrie, la guerre en Syrie, le régime syrien, comprendre ce qu'est le régime de Bachar al-Assad, c'est un révélateur, c'est comprendre aussi qui est l'allié russe de Bachar al-Assad. Et je termine juste avec ça, avec deux citations qui montrent qu'au-delà de leurs différences, elles sont aussi importantes, hein, il y a vraiment une fraternité entre ces types de régimes. Lorsque Bachar al-Assad, en août 2017, dit « Nous avons perdu le meilleur de notre jeunesse et une infrastructure qui nous a coûté beaucoup d'argent et d'efforts sur plusieurs générations, mais en retour, nous avons gagné une société plus saine et plus harmonieuse. » Et lorsque Poutine, le 16 mars 2022, dit « Chaque peuple, le peuple russe particulièrement, reconnaît la racaille et les traîtres et peut les recracher comme une mouche entre dans la bouche », les deux utilisent la guerre comme un instrument de purification de leur propre société et de leur environnement. Et il y a une nature criminelle qui est véritablement à saisir pour savoir ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut faire vis-à-vis de ce type d'État.
Ziad Majed.
Oui, moi je veux juste revenir rapidement à la question de la solidarité et bien sûr la distinction est importante entre une révolution face à un régime et une invasion d'un État à un autre État souverain. Mais par rapport aux Syriens, il y a à la fois la question des réfugiés et un traitement très différent, bien que c'est la même souffrance humaine et dans les deux cas ce sont des gens qui ont été expulsés et bombardés et ils sont partis pour sauver leurs enfants et les siens. Donc il y a eu un traitement très différent entre réfugiés syriens ou autres d'ailleurs du Moyen-Orient et de l'Afrique subsaharienne et les réfugiés ukrainiens. Et cela ne veut en rien dire qu'il ne fallait pas évidemment montrer toutes sortes de solidarité avec les Ukrainiens. Et la deuxième chose, c'est que les Syriens n'ont pas demandé la même aide militaire que les Ukrainiens reçoivent. Évidemment, ce n'est pas possible. Ils avaient juste demandé des missiles sol-air pour se protéger contre l'aviation. Et c'était déjà en 2012. Si on avait fourni cette arme-là en 2012, je ne pense pas qu'on aurait discuté une bonne partie de ce qu'on a discuté aujourd'hui, puisque ne pas envoyer ces armes, c'était carte blanche à l'aviation du régime syrien et puis des Russes de bombarder des populations civiles sans protection et des opposants sans protection.
Merci Ziad Majed. Je rappelle que vous êtes politiste, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de Paris. Merci également à Ala Kodmani, journaliste franco-syrienne et grand reporter à Libération, et Joël Ubrecht, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, responsable du programme Justice pénale internationale et transitionnelle à l'Institut des études et de la recherche sur le droit à la justice. Je rappelle que vous êtes Ala Kodmani, Ziad Majed et Joël Ubrecht, que vous avez tous les trois contribué, Joël Ubrecht en tant que co-directeur, à l'ouvrage collectif paru cet automne, Syrie, le pays brûlé 2011-2021, le livre noir des Assad aux éditions du Seuil. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Cécile Lavolo et Louise, ainsi que Nathalie Laporte, à demain.